marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. À partir de 1944, rescapés, réfugiés et survivants de la Shoah tentent de reprendre en main leur destin. Après la Shoah, c'est l'exposition proposée au mémorial de la Shoah à partir du 27 janvier et en avant-première sur RFI.
And now, let's take inventory of today.
Et maintenant, faisons l'inventaire des forces éparpillées. 350 000 juifs en Europe occidentale. 280 000 de plus en Allemagne, en Autriche et en Italie. Et plus de 800 000 en Europe de l'Est. Des juifs qui ne pourront jamais mettre de côté le souvenir des 6 millions qui sont tombés devant la tyrannie nazie. Dans les grottes de Rome, les bougies brûlent pour les martyrs. Ici, à Munich, les vivants pleurent ceux qui ont péri. Paix pour les morts, mais quelle paix pour eux, les vivants. Maintenant que les nazis ont été renversés, devant quel ennemi fuit-il encore? Officiellement, il n'y a plus du tout d'ennemis. Mais de tous côtés, les juifs d'Europe sont toujours menacés par des ennemis officieux. La persécution, la faim et la mort, la nudité et le froid, capables, comme Hitler, de mort et d'anéantissement. Et ces hommes qui ont survécu dans les camps de concentration rêvaient du jour de la libération, du jour où les chars alliés viendraient plonger dans le cœur allemand, capturant les ravisseurs, libérant les esclaves. Ces hommes qui ont goûté à la liberté dans une minute de délire vous diront aujourd'hui que l'ennemi, c'est l'indifférence. L'indifférence des nations pour le sort de ceux qui attendent la possibilité de partir pour la Palestine, les États-Unis ou d'autres terres.
Bonjour Henri Rousseau.
Bonjour.
Et merci d'avoir choisi RFI, la marche du monde, pour nous permettre d'entendre en avant-première les pépites sonores de votre exposition Après la Shoah, des films et des archives sonores, mais aussi 250 photographies et des documents d'archives pour montrer comment les Juifs d'Europe tentent un retour à la vie normale à partir de 1944. Et cette exposition Henri Rousseau, dont vous êtes le commissaire, ouvre ses portes au mémorial de la Shoah le 27 janvier prochain. Que signifie cette date pour l'historien spécialiste de la mémoire collective que vous êtes?
Le 27 janvier, c'est d'abord la commémoration officielle de la libération d'Auschwitz, et donc par là de la Shoah, qui est une commémoration internationale depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors, on le fait parce que pour des raisons pratiques, ça coïncidait avec cette date, mais l'objectif de l'exposition est un peu différent, puisque nous prenons en compte une séquence beaucoup plus large, en fait, qui va de l'été 44 à la fin 1947, c'est-à-dire des premières libérations des camps par les soviétiques. Majdanek a été libéré à l'été 1944, où la France a été libérée entre l'été et l'automne 44, jusqu'aux prémices, on va dire, de la création de l'État d'Israël, qui va ouvrir une autre période. Ce qu'on a voulu faire, c'est isoler cette séquence pour montrer que la sortie du génocide est un moment qui va durer. Alors, on n'a pris que 3 ans, mais il va durer pour certains beaucoup plus longtemps. Et pour montrer que cette sortie du génocide ne se résume pas à cette image iconique qui est la libération des camps.
Alors justement, dans notre mémoire collective, les images qui signifient que la catastrophe est terminée, que l'on est bien dans l'après-Shoah, ce sont justement celles de l'ouverture des camps. Et ce sont des images ultra violentes, ultra choquantes, puisque l'on découvre des juifs morts-vivants ainsi que les cadavres que les nazis n'avaient pas eu le temps de faire brûler dans les fours crématoires. Mais suffisent-elles en effet à témoigner de cette sortie du génocide, ces images?
Non, d'abord pour une raison simple, sur à peu près 6 millions de juifs, il y aura une infime partie qui va survivre, environ 60 000. Et la plupart d'entre eux vont d'ailleurs disparaître dans les semaines qui suivent la libération de leur lieu de détention, que ce soit les camps, les ghettos, etc. Et donc, ce qu'on appelle dans l'exposition les survivants, c'est-à-dire ceux qui ont échappé à une mort programmées, certaines dans des lieux de mise à mort, sont une infime minorité. En revanche, sur l'ensemble des Juifs d'Europe, il y en avait à peu près 10 à 11 millions en évaluation avant la guerre, il en reste quand même 4 à 5 millions qui ont eu, eux, des sorts très différents. Tous les Juifs ne se sont pas retrouvés dans des camps. Et c'est un peu l'un des objectifs de cette exposition, de montrer l'incroyable diversité des parcours des Juifs pendant la guerre et des Juifs au sortir de la guerre, qui vont connaître des destins, bon, pour certains, assez incroyables. Tous, évidemment, avec cette idée, on sort de l'horreur, et on n'oubliera pas cette horreur, contrairement à un cliché, mais en même temps, il y a cette première volonté de survivre et de reconstruire une vie. C'est cette tension entre le souvenir immédiat de l'horreur et la nécessité impérieuse de recréer une vie qui fait un peu le fil de cette exposition.
Alors ce fil, nous allons le remonter au gré des archives sonores et audiovisuelles, c'est le choix de la Marche du Monde. Nous allons les écouter en avant-première sur RFI, et pour revenir sur ces années d'après-Shoah, tout d'abord, nous commençons par l'expérience de la sortie des camps et du difficile retour à la maison raconté par Marceline Loridan-Evans. Fille de juifs polonais négociant à Nancy, elle a 15 ans et s'appelle Marceline Rosenberg, du nom de son père, lorsqu'ils sont raflés par la Gestapo un soir de 43 en zone sud. À Drancy, son père qu'elle adorait lui dit « Toi, tu reviendras peut-être parce que tu es jeune. Moi, je ne reviendrai pas. » Il avait raison. La jeune fille affronte seule la sortie du camp.
Nous marchons et nous arrivons dans un petit village et nous rencontrons des Français. Et ils nous disent, voilà, nous sommes rapatriés. Et nous nous disons, chic, c'est merveilleux. Et ils nous disent, ah oui, mais pas tous. Les prisonniers de guerre seulement. Mais on a dit, mais nous aussi, nous rentrons en France. Mais, ah mais non, que les prisonniers de guerre.
On n'est pas tellement, on est 5-6 filles et une dizaine de prisonniers, pas plus que ça. Tout d'un coup, il y a une colonne de jeeps américaines qui passe, on les arrête, et ils nous prennent en charge et ils nous emmènent dans un camp américain. Alors, il y a un bureau de rapatriés à Pilsen, spécialement pour les prisonniers, à quelques dizaines de kilomètres du camp dans lequel nous nous trouvons. Et alors, ce bureau est d'accord pour rapatrier les prisonniers, mais pas les 5-6 Françaises déportées, on ne sait pas ce que ça veut dire. En plus, juives, qu'est-ce que c'est que ces filles? Et les prisonniers menacent de refuser de prendre en compte leur rapatriement si on ne nous prend pas avec. Donc ils font une sorte de grève, ils refusent jusqu'au moment où finalement ce bureau accepte qu'on rentre avec eux.
La voix de Marceline Loridan, à 87 ans, elle reste une éternelle adolescente en colère. Si j'ai bien compris, rien n'est prévu pour les rescapés des camps. Henri Rousseau, pour quelle raison ?
Pas tout à fait. Mais là, elle raconte une expérience qui est l'expérience qu'ont vécu beaucoup de juifs de France, qui ont une situation un peu particulière, qui est différente d'autres cas, des juifs polonais ou des juifs allemands, qui est le rapatriement. Rapatriement, ça veut dire qu'on va les libérer des camps, à Auschwitz, ou souvent à Buchenwald, ou dans d'autres camps, après des marches de la mort, et on va les rapatrier, c'est-à-dire on va les faire entrer chez eux. Donc ça fait partie de cette catégorie, une minorité en fait, hein, sur l'ensemble des survivants, qui va pouvoir rentrer chez eux,
mais
dans leur pays.
Mais Marceline nous dit que ça a l'air d'être prévu pour les prisonniers de guerre, mais pas pour les filles comme elles, les juives.
C'est vrai, et dans un premier temps, on est dans une situation assez particulière. Il y a à peu près 3 à 4 000 survivants des camps d'extermination, donc de juifs qui ont été déportés de France, sur un ensemble de gens rapatriés, toutes catégories confondues, qui est à peu près de 1,8 million de personnes. Les prisonniers de guerre, les travailleurs forcés, les résistants qui également ont été déportés, mais dans d'autres conditions, on le sait, dans les camps de concentration. Et donc, ce qu'elle exprime, c'est le premier contact, d'une certaine manière, des autorités avec la singularité de ce qu'était la Shoah, qui n'est pas perçue immédiatement. Alors après, il y a des structures d'accueil, bien sûr, dans le Lutetia, mais il y a ce sentiment que cette infime minorité, ça n'est pas la priorité.
Alors prenons justement l'exemple de la France où les juifs rescapés des camps sont accueillis à l'hôtel Lutetia pour recevoir les premiers soins d'urgence. Charles Celty et André Kahn témoignent dans le film de Virginie Linhart, Après les camps, la vie.
Ce qui était dur, c'était l'arrivée en bas. Les gens qui attendaient et qui nous montraient des photos, des leurs, mais des photos d'avant-guerre, des gens bien nourris, et on sentait dans leurs yeux, mais comment se fait-il que vous, dans l'état où vous êtes, vous rentrez, et que le mien, qui est un bel homme, ou une belle femme, peu importe, hein, ne rentre pas. En gros, c'était ça. Pourquoi vous ? D'ailleurs, la question, elle est toujours posée. Hein. Les jeunes, c'est une question qui pose. Comment se fait-il que vous, vous êtes rentré, pas les autres ?
En arrivant, qui je trouve pas ? Charles Celtic, qui est dans la même chambre que moi, et qui était dans le même avion que moi, et s'était perdu 15 jours avant, à Guzen. Donc, lui, il est parti de Guzen à Bergen-Belsen avec un camion. Et on se retrouvait dans la même chambre à Lutetia. Donc, pendant 14 mois, on s'est quitté 15 jours.
On était passé là, plus ou moins, en contrôle. Je ne sais plus si on l'avait fait en bas ou si on est venu dans notre chambre nous le faire. Mais on nous demandait quand même des renseignements. On nous donnait une carte de rapatrié, nous donnant droit à un billet de 1000 francs, je crois, de l'époque. Hein, on se croyait riche avec ça. On avait le droit à un bon pour un costume, voilà.
Alors lui, il a eu de la chance, oui, plus que moi, parce que lui, il a retrouvé de suite la famille parce qu'ils habitaient Paris. Et moi, j'étais là, j'attendais. Et là, il se passe 7 jours. Et un jour, une infirmière qui vient, Monsieur Kahn, oui, eh bien, vous avez votre sœur dans le couloir. La sœur dans le couloir, oui. Charles avait retrouvé la famille. Le cousin de Charles va chercher un chariot pour mettre dedans et... Bon, j'ai fait 2-3 fois le couloir. Pas de sœur. Bon. Je reviens et son cousin me dit, toi, André, on s'est trompé. Hein? C'est des cagnes à la boucle, on s'est trompé. Bon, très bien. Ça m'a fait un choc quand même de dire à ma sœur et après que c'est pas vrai. Et 5 minutes après, l'infirmière me dit, alors, votre sœur? Je dis, mais j'ai pas ma sœur, là. Comment? Il dit, non. Il dit, venez avec moi. Ne prenez pas le chariot, je vous tiens. On est sortis. Il y avait une fille qui venait vers moi. C'était ma sœur. Elle me cherchait. Moi, je la cherchais. On s'est croisés. On ne s'est pas reconnus. Oui, dans quel état on était? On ne s'est pas reconnu.
Le Lutetia, Henri Rousseau, reste une autre séquence majeure dans la mémoire collective de l'après-Shoah. Comment il faut imaginer cet hôtel de luxe avec ces gens donc, qu'on ne reconnaît plus comme des êtres humains et d'autres qui les cherchent? Ce sont des scènes assez surréalistes.
Oui, parce que ce qui domine, c'est... Peut-être pas le chaos, le mot serait trop fort, mais une forme de désordre, une forme à la fois de soulagement, c'est quand même des gens qui ont pu échapper à la mort, mais leur premier réflexe, on vient de l'entendre, c'est « et où sont les miens ? Où sont les autres ?» Ce qui est un des traits dominants, en fait, je pense, de ce lieu, c'est que les gens se cherchent. Alors, les gens entre eux se cherchent, les survivants, et puis surtout ceux qui viennent de l'extérieur, voir si un des leurs n'est pas revenu. Et là, je ne parle que des Juifs, qui sont une infime minorité, je le rappelle, 3 à 4 000 sur 76 000 qui ont été déportés. Donc, de toute manière, la déception, le drame est quasi quotidien. Donc, il y a ça d'une part. En même temps, ce serait injuste de dire que le gouvernement français n'a rien fait. Il doit accueillir, encore une fois, des centaines de milliers de personnes et... Il y a eu en place des structures, dont le Lutetia en est une. Il y en a eu d'autres dans Paris et ailleurs en France. On montre une carte, d'ailleurs, où le ministère des prisonniers et des rapatriés d'Henri Freinet a cadré d'une certaine manière, de telle sorte à créer des structures d'accueil. Par comparaison, d'autres pays n'ont pas eu les mêmes structures ni les mêmes capacités. Alors le Lutetia, évidemment, est resté comme un lieu de contact entre les vivants et les survivants. C'est un des premiers contacts et ils ne se reconnaissent pas entre eux. Et évidemment, les familles ne vont pas reconnaître les leurs, surtout ne vont pas les trouver.
Et c'est aussi un immense poste de secours. Hein. Ça va durer à peu près 6 mois. Les premiers soins aussi sont donnés ici. Et je pense notamment au témoignage de Michel Rocard, qui est à l'époque est un jeune scout. Et Dieu sait que Michel Rocard, on a vu hein, en tant qu'ancien ministre, mais il ne peut pas évoquer cette séquence sans une certaine émotion, lui aussi.
Oui, c'est un témoignage qui a été recueilli l'an dernier, et on voit à quel point il a été marqué par cette observation. Il a vécu l'occupation, mais il n'était pas directement concerné. Et effectivement, on mobilisait les jeunes, on mobilisait les scouts. Lui, en l'occurrence, c'était les scouts protestants. Bon. Et il y a cette image qui l'a marqué, qui a marqué tout le monde. Et encore une fois, c'est un peu difficile de le dire ainsi, mais les conditions de rapatriement des Juifs de France au Lutetia sont encore moins mauvaises que d'autres situations qu'on a pu connaître ailleurs en Europe. C'est même parmi celles qui, au fond, ont permis à un certain nombre d'entre eux de retrouver une vie.
Alors justement, parlons de la Pologne où les Juifs ont été totalement éradiqués, Henri Rousseau. Comment faut-il imaginer mentalement ces Juifs polonais qui reviennent en Pologne? J'imagine qu'ils n'ont qu'une idée, c'est repartir.
Alors, le cas de la Pologne est un peu compliqué. On l'a choisi précisément parce que, bon, d'abord, c'est le pays qui a le plus souffert sur une population d'environ 3 300 000 juifs. Il y en a à peu près 3 millions qui sont morts. C'est absolument hallucinant. C'est considérable. C'est à la fois en proportion et en nombre absolu les chiffres les plus importants. Ensuite, il y a donc environ 400 000 rescapés. Alors, on fait une distinction entre rescapés et survivants. Les survivants, c'est ceux qui vraiment survivent à une expérience extrême, Auschwitz. Bon. Les rescapés, ce sont par exemple des juifs qui ont été cachés à Varsovie, à Paris, à Berlin, et qui ont pu échapper à la persécution. Et dans le cas de la Pologne, il y a très très peu de rescapés qui ne soient pas des survivants, et il y a très peu de survivants. En revanche, il y a une catégorie qu'on connaît assez mal, qui sont des réfugiés. Ce sont des juifs polonais qui, au moment de l'invasion de la Pologne par les nazis, et de la double invasion, puisqu'on le sait, à cause du pacte germano-soviétique, la Pologne orientale a été envahie et occupée par l'Union soviétique, au moment où les nazis vont à leur tour attaquer l'Union soviétique, et donc réoccuper l'ensemble de la Pologne, vont fuir et se réfugier en Union soviétique. Ça concerne à peu près 250 000 personnes, donc ça n'est pas rien. Alors, ces gens vont se réfugier en Union soviétique. Alors, quand je dis réfugiés, le terme, il faut le prendre avec certaines précautions, parce que certains vont être très maltraités. Il va y avoir quand même, au total, sur 300 000 qui partent, il y en a 100 000 qui meurent quand même. Oui,
Et puis, il y a beaucoup de déplacés forcés.
Il y a beaucoup de déplacés de force. Beaucoup refusent de prendre la nationalité soviétique, etc. Enfin, j'en entre pas dans tous les détails. À la fin de la guerre, une partie d'entre eux va revenir en Pologne. Une partie d'entre
eux. Et paradoxalement, ont été sauvés, au fond, par cette invasion soviétique, avec beaucoup de guillemets, bien sûr.
Oui, ils ont échappé aux persécutions nazies. Ils ont connu des formes de persécution ou de mauvais traitements, mais qui n'ont rien à voir en Union soviétique, mais ils ont, pour la plupart d'entre eux, échappé à la Shoah, et donc vont revenir en Pologne à partir d'avril-mai 1945, environ 200 000. Bon. Et sur cette population qui revient, qui va reconstituer une minorité juive en Pologne, qui a été entièrement vidée, entre guillemets, de ces juifs, eh bien, la plupart d'entre eux vont partir dans les 2-3 années qui suivent. Pourquoi? À cause d'un phénomène qui est encore difficile à comprendre, qui est un antisémitisme post-génocidaire. C'est à la fois l'antisémitisme traditionnel, c'est à la fois l'antisémitisme qui s'est donné libre cours, évidemment, pendant la guerre. Il y a eu pas mal d'aides fournies aux nazis, pas simplement par les Polonais, par les Ukrainiens ou par d'autres. Bon. Mais il y a, après la guerre, une sorte de renforcement de cet antisémitisme qui touche d'ailleurs parfois des personnes qui n'avaient pas été jusque-là considérées comme antisémites à cause des biens juifs qui ont été spoliés, à cause des appartements qu'il faut rendre, à cause de ces juifs qui reviennent et réclament leur ferme, leur appartement, leur échoppe, etc. Et surtout en Pologne, dans d'autres pays également, ça a donné lieu à de véritables pogroms. On parle de 1500 à 2000 morts. Le fait qu'on est après la guerre, c'est considérable. Et donc ces gens vont, pour la plupart d'entre eux, quitter la Pologne. Ce sont à nouveau des réfugiés. C'est pour ça que dans l'exposition, on parle bien de trois catégories. Les rescapés, qui sont l'ensemble des juifs qui ont échappé à la mort. Les réfugiés, qui sont ceux qui ont échappé aux persécutions, mais qui vont se retrouver sans pays. C'est vraiment d'une actualité brûlante. Et les survivants, qui eux sont cette toute petite minorité qui ont échappé à la mort des camps.
Après la Shoah, l'exposition, c'est juste après les infos et en avant-première avec Henri Rousseau sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée à l'exposition Après la Shoah. Elle ouvrira ses portes le 27 janvier et elle revient sur le temps où les minorités juives cherchent à reprendre en main leur destin. Une exposition à découvrir en avant-première dans la marche du monde.
Moi, on m'a envoyée à Clermont-Ferrand, après la libération de Toulouse, parce que tout de suite, nous avons voulu faire le travail à l'envers. C'est-à-dire, on a caché les gens, on a voulu les sortir de leur cache. Et entre autres, on m'a envoyé au bureau des questions juives de Clermont-Ferrand. J'avais un beau brassard FFI ici. Et je suis arrivée, j'ai dit au gars, je viens chercher les fichiers des juifs. Alors il m'a dit, mais il faut que vous me donniez un papier. Parce que tout le monde avait fichu le camp, tous les gens qui travaillaient là. Mais lui, il gardait son fichier, puis il voulait, vous savez, la bureaucratie, il voulait un papier pour le couvrir. Moi, je lui dis, la seule chose que j'ai, c'est mon revolver. En pointant sur lui, je ne savais pas m'en servir. Et il a dit, vaut mieux pas discuter.
La voix de Frida Wattenberg, résistante juive. Elle fait passer des enfants en zone libre pendant l'occupation nazie et elle a échappé aux arrestations. Expliquez-nous bien pourquoi elle vient récupérer ses fichiers administratifs à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qu'elle veut en faire, Henri Rousseau ?
Alors d'abord, elle a 20 ans. C'est un petit détail, mais quand même.
Quand même.
Avec son revolver dont elle ne sait pas se servir. Alors, Frida Wattenberg fait partie des 5 parcours qu'on met à la fin de l'exposition pour montrer un peu la diversité justement des situations. Donc Frida Wattenberg est une juive de parents d'origine polonaise qui est installée en France, qui elle va avoir un parcours de résistante. Alors résistante juive parce qu'elle va entrer dans des organismes de résistance juive clairement identifiés comme tels, comme par exemple l'armée juive ou l'organisation juive de combat, qui sont des organisations qui à la fois se battent contre l'occupant nazi mais qui ont leur propre agenda politique, notamment un agenda souvent sioniste, hein, c'est-à-dire une émigration par la suite en Palestine. Et alors, la mission dont elle parle, donc au moment de la libération, est très intéressante. C'est en passant comme ça, mais c'est quand même très intéressant. Elle est chargée par, donc, son organisation d'aller récupérer en fait des archives du bureau régional du commissariat aux questions juives de Vichy qui possède un bureau à Clermont-Ferrand qui était anciennement donc en zone libre et elle va prendre ces archives toute seule, c'est un récit assez incroyable, pour les livrer à Grenoble au centre de documentation juive contemporaine qui est aujourd'hui le mémorial de la Shoah, il y a un fil rouge. Pourquoi ? Parce que, alors ça c'est un des éléments qu'on met vraiment en évidence dans l'exposition, partout en Europe, c'est pas simplement en France, partout en Europe, les juifs persécutés, les communautés juives persécutées ont mis à partir de 42-43 en place des commissions, des comités, des petits groupes clandestins, notamment dans le ghetto de Varsovie, pour à la fois recueillir de la documentation, protéger des archives, tout ce qui pouvait concerner à la fois la vie juive d'avant-guerre qui était en train de disparaître d'Europe, et en même temps les preuves, des documents qui concernent l'extermination. C'est le cas du CDJC en France. Ces archives, elles servent à deux choses. Elles servent d'une part à témoigner immédiatement après la guerre de ce qu'a été la persécution des juifs, et elles vont servir, notamment dans le cas du CDJC, à alimenter les procès pour crimes de guerre ou pour collaboration qui seront immédiatement lancés après la guerre. Ce qui est très intéressant, c'est que les archives qu'elle a prises avec son revolver, elles sont aujourd'hui au mémorial. On en donne un exemple, puisqu'on a les archives du bureau de Clermont-Ferrand.
Et ce qui est très intéressant aussi, Henri Rousseau, c'est que cela déconstruit immédiatement une des idées reçues sur la Seconde Guerre mondiale, c'est celle de la passivité des Juifs. Vous insistez d'ailleurs sur cette dimension, sur l'action des Juifs pour sortir eux-mêmes de la catastrophe. Alors, pour quelles raisons les Juifs ne peuvent-ils compter que sur eux-mêmes ? Est-ce que c'est dû aux persécutions qui continuent, vous l'avez expliqué tout à l'heure, en ce qui concerne par exemple la Pologne, ou bien au fait que l'Europe, elle est exsangue et que des millions de personnes civiles ont été déplacées, vous l'avez expliqué aussi. Est-ce que ce sont tous ces facteurs qui font qu'au fond, les Juifs ne peuvent compter que sur eux-mêmes, Henri Rousseau ?
Oui, je dirais qu'ils ne peuvent compter d'abord que sur eux-mêmes, parce que malgré tout, il y a eu des aides et des protections pendant et après la guerre. Mais c'est vrai. C'est vrai, et ce que vous dites, ça fait partie des explications majeures. Ce qu'on appelle la résistance juive, par exemple, c'est à la fois une résistance au sens traditionnel du terme, ce sont des gens qui vont s'engager, qui vont prendre les armes, qui vont se battre, ou qui vont fournir des renseignements. Frida Wattenberg, par exemple, est aussi agent de liaison. Mais ce sont des gens qui, parce que juifs et parce que pris dans la Shoah, vont avoir pour mission de protéger leur corps religionnaire, et notamment les enfants. Frida Wattenberg, dans son action de résistance, son action fondamentale pendant la guerre, c'est de protéger les enfants, de les mettre à l'abri, de les emmener dans des homes d'enfants, etc. Tâche qu'elle va poursuivre après la guerre, notamment dans le cadre de l'OSE, l'organisation de secours aux enfants. Et donc oui, il y a, et ça c'est une idée absolument fondamentale, une autonomie du monde juif dans la survie, dans les formes de protection et d'aide, parce que ça vient de la Shoah elle-même, et puis parce que il y a aussi d'autres composantes, rapidement, parce que qui ont été les premiers à aider les juifs d'Europe? Ben, les juifs américains. Ça a été l'un des éléments essentiels de la reconstruction.
La communauté juive compte essentiellement sur elle-même et sur sa diaspora, notamment américaine. Henri Rousseau, vous venez de le signaler, et on va l'entendre tout de suite, comme on va l'entendre dans l'exposition après la Shoah.
En réponse à l'appel à l'aide pour les Juifs d'Europe lancé au lendemain de la libération en 1946, la communauté juive américaine contribue à hauteur de 102 millions de dollars, dont le Jewish Joint Distribution Committee reçoit 54 millions. La communauté juive d'Afrique du Sud réunit 1 600 000 dollars et l'équivalent de 20 000 dollars en nourriture et vêtements. La communauté juive canadienne réunit 900 000 dollars, l'Argentine 300 000 dollars, l'Australie 50 000. Des communautés juives d'Amérique centrale et du Sud, ainsi que les Landsmannschaften, contribuent également massivement à l'aide aux Juifs d'Europe. Dans un rapport de 1947, le JDC constate que malgré les plus de 58 millions de dollars dépensés, la demande d'aide n'avait cependant pas pu être entièrement satisfaite. Il indique notamment que les Juifs de Roumanie, de Hongrie, de France, de Belgique et des Pays-Bas n'avaient bénéficié d'aucune aide de l'UNRWA.
L'aide de la diaspora, notamment américaine, aux Juifs pour sortir de la Shoah, pour les aider à retrouver une vie normale. Il y a des problèmes de déplacement de population, de réfugiés, de récupération des biens spoliés. Les problèmes sont multiples et variés. Et cette aide est également symbolisée dans l'exposition par un objet d'époque, une boîte sanitaire de la Croix-Rouge, sur laquelle on peut lire ce touchant « don du peuple des États-Unis d'Amérique ». Alors du coup, moi, je me suis demandé s'il y avait une forme de culpabilité, justement, des peuples alliés, en quelque sorte, Henri Rousseau.
Oui, c'est une question très pertinente, parce que, probablement, la question de la culpabilité, en étant prudent, parce qu'on est quand même au sortir d'une guerre qui a été d'une extrême violence, la question de la culpabilité joue à l'égard de ce qu'on appelle encore les réfugiés, et pour lesquels on va inventer un nouveau terme. Précisément à cause de la situation européenne, pas simplement des juifs, mais de beaucoup d'autres personnes, qui est le concept de personnes déplacées. Ce concept de personnes déplacées, qui aujourd'hui s'est imposé partout dans le monde, est un nouveau concept qui permet de prendre en compte la situation d'un réfugié, c'est-à-dire de quelqu'un qui a quitté son pays, qui ne peut pas y retourner. On a vu le cas tout à l'heure de ces juifs polonais qui fuient la Pologne libérée, donc qui fuient les pogroms ou l'antisémitisme de la Pologne d'après-guerre. Et qui se retrouvent, alors où, on l'a pas dit, mais ils se retrouvent, où ils vont se retrouver en Allemagne. Alors la plupart sont en Allemagne, un peu en Italie, un peu en Autriche, dans des nouveaux camps, enfin ou des camps réaménagés, parfois c'est les mêmes que les anciens camps de concentration, comme à Bergen-Belsen.
Et gérés par les alliés cette fois.
Alors ce sont des camps évidemment gérés par les alliés, ce sont des camps qui évidemment n'ont pas du tout les mêmes intentions, puis il s'agit de garder ces populations, de leur donner un semblant de possibilité de se reconstruire, en vue d'une immigration ultérieure. Bon, et donc ça a été un phénomène considérable, et l'une des idées au fond les plus étranges quand on y pense, c'est que ces camps d'hippies, ils sont plusieurs millions au début, dont 250 000 juifs à peu près, se trouvent au cœur de l'Allemagne, c'est-à-dire une Allemagne dévastée, qui est en gros la responsable de cette situation, et qui se retrouve être, en 1945, une terre d'accueil.
Que faire? Où aller? C'est la question que se posent les Juifs après la Shoah. Nombre d'entre eux veulent à tout prix quitter l'Europe et pour beaucoup, l'espoir, c'est la terre promise de Palestine. Sauf que la naissance officielle d'Israël, c'est 1948. Alors, comment ça se passe en gros pour ces projets de rejoindre la Palestine avant 48, justement, Henri Rousseau?
Alors là, c'est tout un chapitre, évidemment, bon, qui est plus connu, qui est... comment dire, la suite logique de cette situation. Ces centaines de milliers de réfugiés juifs Par exemple, ceux qui sont dans les camps de Dipiz, il faut leur trouver une destination. Beaucoup ne veulent pas rester en Europe. Ça a été la grande question, rester ou partir. Pour les juifs polonais, pratiquement une majorité en tous les cas n'a pas voulu rester. Pour les juifs de France, ça a été différent, une bonne partie est restée. Mais il y a cette aspiration qui est double. D'une part, je pourrais qualifier de négative, vu ce qu'ils ont subi, ils ont envie de partir. Comment rester dans ce continent européen qui les a massacrés, non seulement massacrés, mais qui a détruit en partie, surtout à l'Est, toutes les traces de la vie juive, les synagogues, les cimetières, les bibliothèques. Bon. Et donc, il y a ce désir de partir. Et puis, il y a cette idée qui était au départ l'idée des sionistes, qui n'était pas forcément majoritaire au sein des communautés juives, mais qui va évidemment s'imposer après-guerre. La destination idéale serait la Palestine. De fait, c'est pas exactement ce qui s'est passé, parce que beaucoup de juifs qui ont émigré n'ont pas émigré uniquement en Palestine. La grande vague viendra après la création de l'État d'Israël, mais il y a une aspiration. Il y a une aspiration qui est travaillée par les organisations juives sionistes, qui vont évidemment à ce moment-là avoir un rôle considérable, parce que c'est elles qui fournissent l'aide, c'est elles qui servent de relais, par exemple, à l'aide américaine fournie par l'organisation Le Joint, c'est elles qui pourvoient, d'une certaine manière, avec toute une série de nuances dans lesquelles je ne vais pas entrer, de l'enseignement, de la formation professionnelle, de l'habillement, enfin, tout ce qui est nécessaire pour retrouver une vie normale. Et derrière cette forme de reconstruction, cette aide, il y a évidemment un projet politique qui est de dire: nous sommes en train de former les futurs migrants vers le futur État d'Israël, qui sera évidemment l'un des objectifs, à l'époque, en tous les cas avant 48, contrecarré évidemment sur le plan international, notamment par les Anglais.
Alors écoutez le récit inouï de Charles et Jacques Finkel. Ils sont des enfants rescapés du camp du Buchenwald. Après avoir été évacués, puis accueillis par la France dans des maisons d'enfants de Lozé, l'œuvre de secours aux enfants, ils embarquent le 10 juillet 1947 à bord de l'Exodus.
Nous, on savait très bien ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on était prêts à aller à Chypre. Nous, on faisait partie des jeunes, donc on savait une seule chose, que ça va être difficile. On ne se rendait pas compte du tout de la taille du bateau. Comme mon voyage est à peu près le même, celui de mon frère, je vais passer la parole à mon frère.
Nous savions, et nous étions prêts, comme a dit mon frère, d'aller à Chypre, puisque tous les autres bateaux, arraisonnés avant nous, étaient transférés à Chypre. Mais nous étions des combattants.
Comment croire en l'avenir après un tel parcours ? Nombreux sont ceux qui rêvent d'aller en Palestine. C'est ainsi que Charles et Jacques se retrouvent à Sète le 10 juillet 1947 pour embarquer à bord de l'Exodus avec 4500 autres personnes, en grande majorité des survivants. Après 10 jours de traversée, le bateau est arraisonné par les Britanniques et remorqué vers le port de Haïfa. Refusant tout débarquement, ils obligent les passagers à repartir dans 3 bateaux-cages. Après une nouvelle traversée de 10 jours, dans des conditions très pénibles, les 3 navires se retrouvent au large de Port de Bou, le 29 juillet 1947. Seuls 138 passagers acceptent l'asile offert par le gouvernement français. Les autres refusent de débarquer. Les bateaux repartiront ensuite pour Gibraltar, pour finir dans le port de Hambourg, dans la zone d'occupation anglaise, le 29 août 1947, après un périple de près de 50 jours. Sitôt en Allemagne, un train les emmène au camp de Poppendorf, près de Rostock. Une situation cauchemardesque pour beaucoup d'entre eux. Charles Finkel se rappelle l'enfermement, encore, l'humiliation, à nouveau. Mais nous avions une attitude de combattant, dira-t-il. Nous nous sentions les acteurs d'un événement formidable, la naissance de l'État d'Israël.
Henri Rousseau, l'Exodus, un des épisodes emblématiques de cette tentative de retour sur une terre promise, hein, et pour certains d'entre eux, la Palestine. Ce qui me frappe, c'est que Charles et Jacques se désignent comme des combattants. Pour quelle raison ?
Parce que dans leur esprit, ce sont des résistants, ce sont des combattants au sens que la survie a été un combat. Parce qu'il faut préciser quand même dans leur cas, parce que des combattants, il y en a eu. On a vu avec Frieda Wattenberg, c'est une authentique combattante. Dans le cas de Charles et Jacques Finkel, ce sont des enfants. Ils font partie de ce qu'on a appelé les enfants de Buchenwald, qui est un épisode assez connu, mais que je rappelle en quelques mots, de la fin de la guerre. Lorsque le 11 avril 1945, l'armée américaine va pénétrer dans le camp de Buchenwald, qui est essentiellement composé d'anciens résistants, d'otages, etc., ils vont trouver dans une des baraques un millier d'enfants qui sont des survivants, alors des survivants au sens où on l'emploie dans l'exposition, des marches de la mort de différents camps, notamment d'Auschwitz. Et la grande question, alors c'est le plus jeune à 8 ans, hein, Charles et Jacques Finkel, ils ont à peu près ils ont une quinzaine d'années, et la grande question c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Où va-t-on les envoyer? Ils sont par définition tous orphelins, ils ont tous perdu leurs parents. La France va en accueillir un nombre assez important, à peu près 400. Et Charles et Jacques font partie de ces enfants. Il y en a qui sont très connus, des enfants de Buchenwald. Peut-être le plus connu d'entre eux et mondialement connu, c'est Elie Wiesel, qui est resté en France pendant quelques années grâce à l'OSE, grâce aux maisons d'enfants. Et donc, leur expérience, c'est... D'ailleurs, juste un petit détail, lorsque ces enfants ont été pris en charge par des éducateurs français dans ces maisons de l'OSE, ils se sont retrouvés face à des adultes précoces. Enfin, je ne connais pas le terme psychologique, mais c'est des gens qui n'avaient pas eu d'enfance.
Et Charles et Jacques, eux, ont un projet, c'est aller en Palestine.
Oui, alors eux, ils sont tout à fait dans ce qui est une vraiment un point commun de milliers, de dizaines de milliers de réfugiés ou de survivants ou de rescapés, c'est d'émigrer en Palestine. C'est-à-dire d'aller dans une terre qui soit la leur et où ils seraient chez eux et en sécurité. C'est ça l'idée. Hein. C'était ça au départ le projet, non pas du sionisme en général, mais d'une forme de sionisme d'après-guerre.
Moi, je suis arrivée en Israël le 8 novembre 1947. Quelques jours après, le 29 novembre, on a annoncé qu'à l'ONU, ils avaient décidé, ils avaient voté, et grâce au vote soviétique et des pays soviétiques, il y avait une majorité, et qu'il allait avoir un État d'Israël l'année suivante. Et ce soir-là, ça a été une fête absolument extraordinaire.
The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
Le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine est approuvé par l'ONU. C'est une solution d'avenir pour Frida Wattenberg. Mais ce rêve sioniste n'est pas celui de Marie Simon, une juive allemande.
J'ai le courage d'être ce que je suis, une juive allemande, et s'il le faut, toute seule. Je suis en vie, en bonne santé physique et mentale, je me débrouille fort bien dans la vie et je veux rester à Berlin. Je considère mon émigration comme ayant déjà eu lieu. Oui, j'ai émigré de l'Allemagne d'Hitler vers celle de Goethe et de Johann Sebastian Bach et je m'y sens très bien. En d'autres termes, je veux rester ici. Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons, en voici déjà quatre. Je suis née ici, j'ai grandi ici, c'est donc ici mon pays. Malheureusement peut-être, mais les faits ne sont pas modifiables. Je suis lasse de me battre et reprendre mes études à l'étranger serait beaucoup plus difficile. Je ne veux plus dépendre de l'aide d'autres personnes. Paradoxalement, j'ai l'impression qu'en Allemagne, les conditions d'existence sont meilleures pour moi. Et puis je voudrais récuser l'argument habituel selon lequel l'on ne pourrait pas vivre dans le pays des chambres à gaz. Crois-tu que la populace, n'importe où dans le monde, si on avait attisé artificiellement ses plus bas instincts, se serait comporté autrement que la populace allemande. Des Allemands ont assassiné des millions de Juifs, mais ce sont aussi des Allemands qui ont fait de grands sacrifices pour m'aider à survivre en risquant leur vie.
Extrait du livre de Marie Simon, Clandestine, publié après sa mort. Marie Simon qui a imaginé l'inimaginable, vivre après la Shoah en Allemagne. Et c'est pour moi, Henri Rousseau, le témoignage le plus bouleversant que l'on va découvrir dans votre exposition. D'abord, je voudrais savoir dans quelles circonstances Marie Simon a-t-elle décidé de parler ?
Oui, elle a parlé très très longtemps après les faits. Dans les années 90, elle a parlé sur la demande de son fils qui était un historien. Et elle a parlé parce qu'elle s'est décidée, alors c'est un phénomène qu'on voit chez d'autres survivants, chez d'autres escapés, parce qu'il était temps. Elle a laissé le temps passer et son témoignage est effectivement assez exceptionnel.
Que raconter ? De quoi parler ? Marie Simon y avait réfléchi toute sa vie. Elle livre ses observations vécues durant la période nazie en Allemagne. Nous découvrons la voix de Marie, particulièrement vive, alors qu'elle s'est confiée, vous l'avez précisé, Henri Rousseau, à son fils à la veille de sa mort.
C'était peut-être naïf de ma part de penser que c'était ma mission de collecter des impressions et des expériences pour donner du sens au travail forcé, répugnant. Je voulais collecter non pas des anecdotes, mais de l'expérience. Et je veux savoir tout sur tout et rencontrer le plus de personnes possible. Je me suis raconté mon histoire à moi-même maintes fois, de sorte de l'écrire sans papier ni stylo. Mentir était hors de question. J'appelais cela rédiger. Je m'y livrais mentalement afin de pouvoir, plus tard, tout raconter de manière exacte et avec une pointe d'humour. Il s'agissait juste de raconter la vérité. Il ne s'agissait pas de donner des leçons. Au contraire, je désirais dire la vérité et je ne voyais pas ce que des récits truqués pourraient apporter. Dire des choses négatives sur des résistants importants et honorables me posait problème. J'avais de vrais scrupules à avouer auprès de qui je me sentais à l'aise et auprès de qui ce n'était pas le cas. Je rédigeais tout le temps. Les textes que j'avais en tête devaient être formulés avec précision, être humoristiques et apporter des connaissances.
La voix de Marie Simon. Alors, moi, je trouve qu'elle exprime une pensée humaniste d'une intelligence rare, Henri Rousseau. Elle avait le projet de documenter ce qu'elle a vécu, donc la résistance pendant le nazisme en Allemagne.
Oui, c'est un point commun à énormément de gens qui ont traversé cette période, et notamment de jeunes juifs et de jeunes juives à l'image d'Anne Frank. Hein. C'est pour prendre un cas très célèbre. On en donne un autre cas dans l'exposition, d'un journal écrit par une très jeune enfant et qui sera publié après-guerre. Marie Simon a 20 ans. En 42, elle a 20 ans. Elle a sorti de la guerre. Elle a 22-23 ans. Ce qu'elle raconte est très intéressant parce que elle parle d'une expérience qui, au fond, je vais le dire un peu vite, est celle quand même d'une grande majorité de juifs d'Europe. Il y a ceux qui ont été déportés, et la plupart ont été exterminés d'une manière ou d'une autre, mais ceux qui n'ont pas été déportés sont restés cachés, souvent dans leur propre pays, comme ici en Allemagne ou en France par exemple, et en Allemagne on les appelle les U-Boot, c'est-à-dire les sous-marins. C'est-à-dire, ils doivent, c'est pas des résistants, c'est pas des gens qui vivent dans une logique de résistance, mais ils doivent vivre dans un environnement qui, a priori, leur était familier, mais en se cachant. Elle aura, par exemple, 19 caches différentes, entre 42 et 45, puisqu'elle est menacée d'arrestation en 42. Et ensuite, elle va garder pour elle, elle va accumuler, elle a vécu à Berlin-Est aussi, il faut peut-être le préciser, bon. Elle va accumuler une connaissance, une expérience, alors, elle fait partie de... Il y a les deux cas, en fait. Ce débat sur le silence autour de la Shoah, c'est un débat inépuisable. Pourquoi ? Mais il y a deux cas. Il y a ceux qui parlent tout de suite. Il y a ceux qui sont publiés tout de suite. Le cas de Yanina Echeles qu'on montre dans l'exposition, c'est cette jeune enfant qui a vécu un enfer épouvantable, dont on va publier le journal tout de suite, en 45, par la commission des historiens polonais, qui veut en faire un témoignage emblématique. Et puis, il y a ceux qui vont garder la parole pour eux, pour des raisons qui les regardent, ce qui montre que la question de l'oubli et du silence ne peut jamais se considérer comme une généralité. D'ailleurs, pour moi, l'oubli, c'est une fiction, il n'y a jamais eu d'oubli. Par contre, le silence, oui. Et Marie Simon en est un exemple, je crois, assez emblématique. Lorsqu'elle se décide à parler, elle parle. Et ce qu'elle dit est fascinant. Ce qu'elle dit, c'est « il y a ceux qui veulent partir,
on va dire, c'est peut-être une grosse minorité des Juifs qui sont parmi les rescapés, mais il y a tous ceux qui sont restés. Et non seulement il y a tous ceux qui sont restés, mais il y a tous ceux qui voulaient rester. Et elle, son exemple n'est pas mince. Elle veut rester à Berlin, le cœur du crime, le cœur de la Shoah. Et ça, je pense que c'est, ça fait réfléchir, parce que ça veut dire que pour quelqu'un comme elle, bon, même si elle a un arrière-fond, elle a vécu en RDA encore une fois, l'Allemagne qu'elle connaît, l'Allemagne qui est la sienne, ça n'est pas l'Allemagne de Hitler.
Merci Henri Rousseau d'avoir choisi RFI et la Marche du Monde pour l'avant-première de votre exposition Après la Shoah, qui ouvre ses portes le 27 janvier au Mémorial de la Shoah à Paris. Et pour celles et ceux qui nous écoutent à Paris justement, je vous signale une précieuse rencontre avec Marceline Loridan-Evans. Elle témoigne ce dimanche 24 janvier 2016 à 14h30 au Mémorial de la Shoah à Paris. Vivre après la Shoah, c'était une marche du monde réalisée par Cécile Pompeani avec les précieuses archives du Mémorial de la Shoah, de l'USHMM, du Joint et de Yad Vashem. Un grand merci à Marie-Edith Agostini et à toute l'équipe du Mémorial. Écrivez-nous marche.monde@rfi.fr sur notre page Facebook. Témoigner, podcaster, cette émission, c'est la vôtre.